Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Delaveau, passionné de Maurice André. Et pas que de Maurice André, encore d'autres passions.
Oui, nous nous sommes vus par deux fois pour d'autres passions littéraires passions. Et, voilà, et musicales. Ouais.
On pourra peut-être en dire un petit mot tout à l'heure. Donc le thème de l'émission, c'est tout simplement Maurice André.
Voilà. C'est Maurice André.
Maurice André, et aussi... très grand trompettiste, mondialement connu, un des plus grands au monde.
Alors écoutez, on va faire simple. Ça a été de nombreuses décennies le musicien français le plus connu dans le monde. Et lorsqu'il est parti en 2012, je crois, hélas, les hommages ont été un peu légers. C'est-à-dire qu'en fait, Maurice André était connu dans le monde comme le général de Gaulle, Brigitte Bardot, Jean Gabin, Jacques Brel et le Concorde.
Et le France, pardonnez-moi.
Et quelqu'un est très connu dans le monde pour son art ou son génie, eh bien, on a l'impression que, faut pas. Voilà, c'est un grand Français. Et c'est l'exemple mondial. Et pendant plus de 50 années, au Conservatoire National Supérieur de Paris, rue de Madrid, l'école de cuivre française était la meilleure du monde et la plus enviée dans le monde. Et nous avons les preuves, depuis longtemps, depuis toujours.
D'accord. Et vous-même, vous êtes trompettiste.
J'essaye d'être trompettiste, parce que c'est quand même...
C'est très, très difficile de jouer
de la musique. On est très loin, quelquefois. Les premiers cours que j'ai pris, enfin, je raconterai ça très vite. On va peut-être vendre la trompette, on va prendre la guitare, parce que là... mais le sommet est tellement haut, c'est l'Himalaya multiplié par 10, Maurice André.
Ah d'accord, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Mais il a laissé beaucoup de choses derrière lui, il y a des grands élèves qui ont fait des grandes carrières, comme Bernard Soustrot, Thierry Kans et Guy Touvron, avec qui j'ai eu le plaisir de prendre des cours ces dernières années, avant sa disparition. Il avait fait des grands solistes derrière lui.
Je vais le présenter juste en quelques lignes. Donc Maurice André est né en 1933 et décédé le 25 février 2012.
Voilà.
Donc, il travaille à la mine, donc de 14 ans à 18 ans.
Alors, il était mineur de fond à Alès, dans le bassin minier d'Alès.
C'est incroyable.
Ça lui a donné
des
forces.
Il était déjà passionné par la musique, déjà à l'époque.
Oui, alors je vais vous dire, c'est très important. Il y avait une fanfare à Alès, une harmonie fanfare.
Il étudiait la trompette avec son père.
Voilà. Et il y avait une harmonie fanfare à Alès et il jouait. Comme dans beaucoup de villages ou de petites villes de France, il y avait des fanfares, des harmonies. Et ça s'est passé là. Et pour aller descendre au fond de la mine, ça lui a donné, beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie.
D'accord,
oui. Je me rappelle d'images à la télévision quand il disait au revoir à ses copains mineurs. Il a joué devant les mineurs qui sortaient de la mine avec la trompette piccolo, un air, il leur disait au revoir.
Il avait un don particulier quand même.
À ce niveau-là,
tout le monde n'est pas Maurice André, je dirais, entre parenthèses.
Non, c'est très rare et tout le monde n'est pas Pavarotti.
Très jeune quand même. Il est descendu à la mine à l'âge de 14 ans jusqu'à 18 ans, et tout en étudiant la trompette avec son père.
Oui, puis elle est à l'école de musique du coin, la fanfare, et puis il a été repéré parce qu'il avait une manière de jouer, mais de toucher la note. C'est ce qu'un de ses élèves a dit, ça m'a frappé, Thierry Kans. Maurice, il touche la note.
Ouais. C'est incroyable. Il est rentré au conservatoire de Paris en 1951.
Voilà.
Il avait 18 ans.
Alors, il y a eu surtout le grand concours international.
Il a fait un concours pour rentrer au conservatoire.
De Genève, qui est un des rares lauréats du concours international de Genève.
Et il a obtenu le premier prix de trompette. Et intégré à l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire.
Oui. Mais il a tout. Il a passé toutes les épreuves les plus dures en étant numéro un à chaque fois.
Enfin, numéro un. Moi, personnellement, j'ai toujours été passionné par Maurice André.
Oui, ça tombe bien, alors.
C'est toujours une personne qui m'a... j'ai vu des... Il y a très longtemps, quand même, j'ai vu des reportages où il était interviewé. C'est une passion... on ne peut même pas dire à quel point il est passionnant à écouter, et lui, la passion qu'il a, quoi, pour cet instrument, pour la musique en général, déjà.
Moi, j'ai eu un professeur.
Et c'est un très grand humaniste.
Qui s'appelait, qui est plus de ce monde aussi, hélas, qui s'appelait Robert Pichereau. Parce que j'ai. Bon, moi, il y a eu la fanfare, l'harmonie. Après, je me suis retrouvé à la musique de la deuxième région aérienne au Bourget. Parce que pour aller à la musique de l'air à Ballard, il fallait avoir un prix de conservatoire. Attention, c'est du très haut niveau. Et quand je suis arrivé à la musique de l'air, à la musique de la deuxième région aérienne au Bourget, on m'a dit, très bien, M. Delaveau, voilà, alors vous rentrez dans la musique, oui, très bien, vous faites de la trompette, oui, je commençais comme ça, puis je joue dans des balles, des machins, je fais de la musique, quoi. Et très bien, vous avez passé un petit examen. Alors, on me fait solfier, on me fait jouer un bout de clairon.
De clairon.
Une sonnerie. Voilà, une
sonnerie. Sonnerie militaire.
Sonnerie militaire, au drapeau, et surtout au drapeau, à 3-4, c'est une forme de valse, hein. Mim, mim, sol, do, mi, bon, et si vous voulez, bon, très bien, vous avez un joli son, c'est très bien. Maintenant, on va voir, alors, il me donne un truc à solfier, une partition à solfier. Ça commence gentiment avec des noirs, des blanches, une pause, une demi-pause, des croches, une croche pointée, et bien, puis... Après, il m'enfile une autre un peu plus complexe, des triolets, des 16e de soupir, des doubles croches. Et là, difficulté solfège. J'avais toujours été le solfège redoutable. Il m'a dit, bon, écoutez, vous avez un joli son, mais au niveau du solfège, on est un peu plus exigeant. Donc, on a besoin de clairon. Vous ferez un très bon clairon. Dans notre musique de la deuxième.
Pour commencer, avant la trompette, c'était le clairon.
Oui, mais parce que...
Mais sur le clairon, il n'y a pas de piston. Hein.
Non, ils exigeaient des gens... qui a pour les pistons, la trompette, des exigés des gens qui ont un niveau de solfège très élevé. C'était pas mon cas. Moi, je travaillais déjà, j'étais à la télé, bon. Mais ils étaient très contents de moi au clairon et j'ai eu l'occasion de m'illustrer une fois à Villacoublay pour accueillir des officiers anglais qui venaient faire des stages sur du nouveau matériel français. J'ai joué au chant devant eux et tout seul. Et puis une autre fois, j'ai fait les levées de couleurs au Bourget, tout seul. Mmh. Ils étaient contents de moi, j'avais un joli son. Et voilà. Et c'est comme ça on m'a dit, il y avait des grands musiciens dans cette musique. Faut que tu ailles au conservatoire, faut que tu vois machin, c'est formidable. Parce que j'ai découvert des gens là-bas qui jouaient un certain répertoire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Et j'entendais des gens jouer des solos de Handel ou de Telemann ou de Vivaldi avec des trompettes piccolo.
Et donc, piccolo, on en reviendra, voilà, parce que Maurice André a été très attaché à la trompette piccolo.
Parce que c'est la trompette 4 pistons pour les concertos baroques.
C'est pour le baroque.
Voilà.
Hein, d'accord.
Le morceau qu'on va entendre là, c'est la trompette en ut ou en si bémol, entre guillemets, normale, la grande trompette. Et donc, si vous voulez, j'ai découvert la musique baroque et en allant au conservatoire, j'ai découvert les gens qui écoutaient Maurice André, qui parlaient de lui, qui l'ont connu, et tout le répertoire. Ça m'est arrivé en 1971.
Oh.
Voilà. Et depuis, je n'ai pas arrêté.
Et vous êtes mis à la trompette
J'étais déjà... Moi, je jouais dans de...
Déjà, comme Maurice André
à la fanfare de Montpatelin, dans le Val d'Oise, il y a très longtemps, entre 65 et 70. Et puis après, et dans des balles, dans des boîtes, dans l'Île-de-France, partout. Et c'est à l'armée que j'ai découvert le répertoire classique. Et grâce au conservatoire, on m'a conseillé d'aller... Alors, j'étais au conservatoire de la mairie du 10e arrondissement à Paris. Et mon professeur était William Charlet, qui était deuxième trompette de l'Orchestre de Paris.
D'accord.
Et le premier trompette de l'Orchestre de Paris, qui était son collègue, ça s'appelait Marcel Lagorce. Et quand Maurice André a enregistré pour la première fois le concerto en ut majeur pour deux trompettes d'Antonio Vivaldi, dit le prêtre roux, eh bien c'est Marcel Lagorce qui faisait la seconde trompette avec Maurice. Voilà.
Je reviens sur Maurice André. En 1953, il enregistre, en 53, donc il a 20 ans. Il enregistre son premier disque au sein de l'orchestre de Jean-François Paillard. Il ne se détourne pas pour autant de la musique populaire qu'il joue en parallèle au Cirque Medrano.
Oui,
alors... Voilà, il était au Cirque Medrano ou encore aux côtés de Charles Trenet.
Absolument.
Donc en fait, il était très éclectique.
Si vous voulez,
il partait de...
Oui, avant d'aborder la grande période classique grâce au disque Erato, distribué par RCA, Erato, j'ai environ 150 vinyles, j'ai tous les originaux, de toute façon j'ai 300 originaux, et ce qui se passe c'est que il jouait pour des musiques de films, il accompagnait Trenet à l'occasion, il a fait plein de choses et il a été repéré, il était attiré par ce répertoire, Et très vite, on lui a offert des enregistrements pour Erato. Hein, parce que les premiers disques qu'il a fait, c'est drôle, c'est des 45 tours.
En vinyle.
Des vinyles 45 tours, ouais, bah, à l'époque, dans les années 50. Hein,
ouais, les années 50
et, c'était des chansons, c'était des musiques de kiosque qu'on appelle. Et il avait son premier professeur, Raymond Sabary, qui était un grand professeur. Et la grande méthode de trompette à l'époque, qui était très courue et qui l'a encore, hein, c'est celle de Jean-Baptiste Arban. Et Arban, il avait écrit quelque chose de très dur à jouer, qui s'appelle Le Carnaval de Venise.
D'accord.
Et quand on joue ça quasiment à la perfection, on peut faire beaucoup de choses derrière.
Parce qu'en fait, vous qui faites de la trompette, bon, on est sur
l'émission
de Maurice André, mais en fait, la trompette, déjà, la trompette, c'est un instrument qui a été inventé dans la Grèce antique, donc c'est un très très vieil instrument. Hein. Bon, pas comme on le connaît maintenant, mais c'était bon, la fonction de la trompette.
Et puis il y a le mythe des murs de Jéricho.
Voilà.
Hein.
Voilà, et était fabriqué en bronze, il était fabriqué en bronze. Et donc, elle était utilisée lors des cérémonies et des processions religieuses. Plus tard, elle a également été utilisée à la guerre pour sonner l'alarme ou pour donner des ordres.
Mais regardez même les...
Donc, ça servait aussi à un instrument pour
Regardez même les films médiévaux qui retracent des épopées médiévales. Quand il y a des tournois, il y a les trompettes très
c'est
longues
trompette,
qui jouent. C'est le début du tournoi. Et je vais vous dire une chose, c'est que quand il y a les premières compositions pré-baroques, eh bien, c'est beaucoup d'air, de composition a été joué avec les trompettes allongées. Il n'y avait pas de piston, mais tout se faisait avec la pression de l'air, avec le ventre et les lèvres.
Alors oui,
mais
comment on fait, vous qui pratiquez...
Le problème, c'est que ce n'était pas aussi précis qu'avec l'invention des pistons. Et il y a eu un Allemand qui a inventé, je crois, les trompettes à clé.
La trompette moderne, ça a été inventée par Anton Weidinger.
Voilà, il a inventé la trompette à
dans
clé.
Dans les années 1800.
Et c'est un petit peu avant, non ? Enfin, oui, 1800. Ouais. Et c'est grâce à ça que, par exemple, il y a eu le concerto pour trompette de Joseph Haydn.
D'accord.
C'est un classique de Maurice André. Si vous voulez, sur 250 vinyles Erato, il y a, vous voyez le nombre de concertos, d'opéras, de concertinos qu'il a joué, c'est enregistré, c'est absolument incroyable. Et les premiers concertos ont pu être écrits grâce à l'invention de la trompette à clé.
D'accord.
Parce qu'avant, bah, c'était uniquement un truc allongé, on jouait comme ça, comme dans les Alpes suisses avec le grand machin.
Mais le grand, le corps.
Enfin, voilà,
c'est
oui.
Ça, le corps, mais c'est une trompette en fait.
Bah, moi j'ai fait du corps de chasse à un moment, parce qu'il y avait des messes de la Saint-Hubert, hein. J'avais joué dans les messes de la Saint-Hubert. Quand on joue certaines choses au clairon, ou à la trompette de cavalerie, ou même à la trompette, ou au bugle, ou au cornet à piston, on peut jouer du corps de chasse.
D'accord.
Et le corps d'harmonie...
C'est un dérivé du corps de chasse ?
Non, le corps d'harmonie, c'est le corps le corps de chasse est au corps d'harmonie ce que le clairon est à la trompette.
Ah, d'accord.
Il n'y a pas de piston au corps de chasse.
Oui, il n'y a pas de piston.
Et il y a les trois pistons au corps d'harmonie, comme il y a les trois pistons sur la trompette, ou le bugle, ou le cornet à piston.
D'accord.
Que jouait Bourvil très bien, d'ailleurs.
Maurice en jouait. Et il jouait que de la trompette, ou il jouait, par exemple, du piano
Maurice, non, je sais qu'il a fait du corps à un moment. Parce que c'est le même doigté. C'est
donc
le même...
les instruments avant, quoi, en fait.
Oui, mais à embouchure. Mais il jouait trompette, bugle, cornet à piston. Et je sais que quelquefois, il a fait du corps d'harmonie.
D'accord.
Mais très peu, hein, c'était pour son plaisir
mais
chez lui.
En fait...
C'était chez lui pour son plaisir, le corps d'harmonie.
Quelle motivation et quel entraînement.
Ah bah c'est...
C'est incroyable.
Une course de fond pour lui qui a duré toute sa vie.
Toute sa vie, et il l'a consacré à la musique, quoi.
J'ai pu le voir très tôt et je l'ai vu la dernière fois.
Vous l'avez rencontré vous-même, personnellement?
Oui, je l'ai croisé grâce à mon professeur Pichereau, qui connaissait, parce que M. Pichereau, c'était aussi un maître à sa manière, donnait des cours à son fils Lionel André. Et j'avais un copain, Jean-Louis Masson, qui donnait des cours à son petit frère. Et... comment dirais-je, au frère de Lionel, et Nicolas André. Et ce qui se passe, c'est que... c'est une filiation, en fait. Alors, avec Pichereau, Maurice André allait souvent jouer à l'église de Saint-Séverin, dans le quartier latin, dans les années 70-80.
Dans une église à trompette.
Voilà, et j'allais le voir tout le temps. Et un jour, j'étais avec M. Pucheron, professeur, on tournait autour de l'église, on était un peu en avance, et puis tout d'un coup, on croise Maurice qui arrivait pour le concert, et Maurice, il fait « Ah, André, qu'est-ce que tu fous là ?» Ils sont dans, oh, ici, non, Robert, il s'appelait Robert Pucheron. « Ah, Robert, qu'est-ce que tu fais là ?» Bah, je viens de voir et tout. Et puis, il me présente Olivier, un jeune élève qui t'admire beaucoup, il travaille bien, et il vient te voir tout le temps. Et Maurice André me dit « Bonjour, on a papoté sur le trottoir 3 minutes. » Puis Maurice, il dit « Bon, les gars, faut que j'y aille parce qu'il paraît que je doute tout à l'heure. » Donc, c'était très drôle. Et puis, il a joué. Et puis après, je l'ai revu. À part 3 fois, parce que j'ai recontacté ce que je voulais. Moi, j'étais éditeur dans une autre vie, et je voulais lui faire faire un livre. Ben, c'était compliqué. Et il était touché de cette initiative. Ah oui, c'est une bonne idée, mais bon, je sais pas. Et puis, j'ai revu un an après au concours de la ville de Paris, parce qu'il a fait le concours de la ville de Paris à l'époque où Chirac était le maire. Et le concours de la ville de Paris, le concours Maurice André, on l'appelait ça, c'était. Un événement
le concours Maurice André.
De la ville de Paris, c'était grandiose. Hein. Ça a duré plusieurs années. Et moi, je me souviens d'un grand candidat qui est sorti victorieux, qui s'appelle David Guerrier, qui est un très grand trompettiste. Hein. Mais c'est incroyable, l'école de cuivre de Maurice André de trompette, il a donné des élèves dans le monde entier.
Il a fait des émules.
Ah, des émules incroyables. Alors, bon, je ne veux pas. On n'idolâtre personne ici. Mais il y a Maurice André et il y a les autres. Mais il y en a qui sont pas loin.
Mais ils sont pas forts, ils sont vrais.
Mais oui, non, mais c'est inexplicable. Mais il y en a qui sont pas loin, comme Guy Touvron, Bernard Soustrot, Thierry Kans.
Qu'est-ce qui fait la différence qu'il y en a qui sont pas loin?
Moi, j'ai vu jouer beaucoup Maurice André à la salle Pleyel, par exemple, pendant plus de 20 ans. J'y allais tout le temps. Je l'ai vu jouer des concertos très durs, très acrobatiques et entre guillemets très risqués à jouer devant 3000 personnes. Parce qu'en studio, entre l'allegro, l'andante et puis le presto, on peut se reposer, on peut faire une pause. Tandis que là, ça ne pardonne pas. Vous êtes devant des milliers de gens
et là, il faut donner,
et le concerto, faut le jouer.
Il faut le jouer et puis bien, quoi.
Le Brandebourgeois de Bach, faut le jouer. Le concerto de Tartini.
Il parle de Bach, c'est extraordinaire, Bach.
Il faut les jouer. Hummel, Johann Willem-Hertel, c'est des trucs très, très durs à jouer. Mais. Il y a une espèce de. Il n'y a pas d'explication, en fait. C'est une. En fait, je vais vous dire.
Il est né comme ça.
Oui, voilà. Pichereau me disait, Maurice, tu sais quoi? Non, il est né avec une trompette dans le ventre.
Voilà, c'est ça. Il est né, il était fait pour ça, au départ.
Mais je vais vous dire.
Au départ, il était fait pour la musique, qui est important, pour l'instrument, la trompette.
J'ai appris ça aussi un peu à l'armée, quand j'allais au conservatoire avec William Charlet, donc, qui était à l'Orchestre de Paris. Et Pichereau me l'a confirmé après, de meilleure manière, parce qu'il a redressé beaucoup de gens qui étaient des grands solistes, qui avaient du mal. Il ne faut rien faire derrière un instrument. Il ne faut pas vouloir jouer. Il faut que ça joue tout seul. Si ça ne joue pas tout seul,
ouais, mais c'est un,
vous pouvez pas tenir
c'est un travail de longue haleine pour arriver à ça.
C'est un travail de concentration extrême.
Concentration et puis
c'est comme les grands chanteurs. Si vous voulez, tout vient du souffle du chant. Si vous soufflez dans la trompette...
Alors, vous qui faites de la trompette, comment ça se passe, le souffle dans la trompette?
Il ne faut pas jouer, il ne faut pas souffler.
Alors, voilà.
Alors, quand on dit...
On dit on souffle, comment on fait?
Non, mais c'est le problème de l'enseignement. Il y a eu un problème avec ça, et c'est pour ça que Pichereau, les profs conservatoires, disent « Oui, celui-là, il dit n'importe quoi ». Non, même Maurice André envoyait ses enfants chez lui. J'ai mon ami Jean-Louis Masson qui était là.
Alors, on fait comment en fait?
Attendez, donner des cours à Nicolas André, son fils cadet. Pichereau donnait des cours à Lionel André, son fils aîné. Il n'est pas fou, Maurice, c'est à qui il cause, là. Quand je le rencontre sur le trottoir près de Saint-Séverin, ah, Robert, tu vois, bon, on sait où on est, là. Et ce que je veux dire, c'est que. Le premier cours que j'ai pris chez Pichereau, dans le 15e, c'était près de la place du commerce. Et il me dit, jeune homme, entrez, bonjour. Après, il m'appelait Olivier, comment tu vas et tout. C'est une trompette Selmer, c'est bien. Je dis, oui, alors qu'est-ce que vous faites? Vous voulez prendre des cours? Je dis, oui, est-ce que j'arrive pas à aller dans les aigus? Puis j'aimerais bien, je parle du répertoire classique de Maurice. Alors il me fait, ah, Maurice, c'est très haut, hein, attention. Ouais. Et puis bon, il me fait, mais vous avez raison, il faut toujours être avec les plus grands.
Moi, je vous
les
propose.
Plus grands pour modèle. Et très vite, pour finir, il me dit, alors, faites-moi un son, alors je fais un son, puis je joue un petit quelque chose, alors je fais une gamme, et après, un petit morceau. Alors, je n'ai pas joué au clair de la lune. J'ai commencé les premières mesures de l'Ave Maria de Schubert. La, sol, la, do, si, la, la bémol. Hein. Alors je joue la première mesure, là, da, 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 bon, très bien. Bon, bah, très bien, jeune homme. Vous savez ce que vous allez faire?
Ouais.
Vous avez un bel étui.
Ouais.
Vous avez une belle trompette. Oui.
Ouais.
Eh bien, on va ranger la trompette dedans. Parce que l'étui, il est vachement bien. Ah bon, mais.
Ah d'accord.
Et après, il me dit, bon, ben maintenant, vous allez apprendre à respirer. Et
Et
pendant 2, 3 mois, je crois que je suis venu plus de 3 mois, je suis venu sans la trompette. Il m'a dit, la prochaine fois, il ne faut pas revenir avec la trompette, ça ne sert à rien. Uniquement l'embouchure.
l'embouchure pour apprendre.
Parce que si tu t'amuses à souffler, à taper dans la motte, là, vas-y, mon petit gars, fais voir comment tu jouais, pan, pan, c'est fini.
D'accord.
Donc, je suis venu plusieurs mois sans la trompette. Et un
À
jour, il m'a dit,
s'entraîner.
tu peux venir avec l'instrument.
D'accord. Moi, je vous propose
Parce
une
qu'il
chose.
fallait rester uniquement sur l'air et ne pas s'écouter jouer. C'est comme les gens qui s'écoutent parler.
Ouais.
C'est ce que je suis en train de faire, là. Excusez-moi.
Je propose qu'on écoute Rondo Hummel.
Le rondo de Johann Nepomuk
Voilà.
Hummel.
C'est le
Et
premier mouvement, c'est ça?
oui.
Ouais.
Non, c'est le troisième, c'est le final du concerto en mi bémol majeur de Hummel. Alors, Johann Nepomuk Hummel, c'est
Voilà.
1778-1837.
D'accord.
C'est une transition entre le baroque et le classique dans le répertoire de Maurice Sandry. Hein, voilà.
On va en écouter un extrait. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre au journal des Beaux-Arts. Donc, on vient d'écouter ce troisième mouvement, hein, c'est ça?
Le rondo, c'est le final du
Voilà.
concerto de Hummel. Hein,
Je disais, Olivier, c'est quand même très, très moderne. Hein, c'est encore très moderne. Ça n'a pas vieilli, quoi. Et ça date de quand, ça? 1700 et
C'est
quelques?
entre 1700, c'est dans les années 1800.
1800,
De
c'est
1800, oui,
incroyable.
c'est un petit peu avant
C'était des génies,
1800,
quand même. Hein,
un peu avant 1820, je
c'était quand
crois.
même des génies. Hein. Alors, je voudrais juste faire une annonce pour une galerie d'art qui vient d'ouvrir à Barbizon, au 82 bis Grand Rue à Barbizon. Donc, c'est la galerie de Christophe Debuchère. Donc, la galerie est ouverte le jeudi et le vendredi de 14h à 18h, le samedi et dimanche de 13h30 à 19h, et sous rendez-vous. Alors, je vous communique le téléphone 06 33 18 19 10. 06 33 18 19 10. Donc, c'est la galerie de Christophe Debuchère. Et il y a un livre qui est paru, Lotus Solus, éditeur. Donc, il est aussi à la galerie. Et Christophe Debuchère est en ce moment du 20 mars au 17 avril au centre Montesquieu, 9 avenue de Seix, 78 600, Maison Laffitte. Du mardi au dimanche, de 14h à 18h, nocturne jeudi jusqu'à 20h30. Voilà. Renseignements au 01 34 93 12 81. Et donc la galerie, je redonne le numéro de téléphone 06 33 18 19 10. Voilà. Donc je reviens sur ce qu'on disait. On parle de baroque. En fait, le baroque, c'est un style qui s'est développé entre le 16e et le 18e siècle. Alors Olivier, faut me dire si c'est pas donc caractérisé par la liberté des formes et la profusion des ornements. C'est ça, à peu près? Ouais.
Alors pour la musique baroque, on peut vraiment parler de ça parce que les jeux de tri dans la musique
Parce que
baroque,
Maurice André, il a fait beaucoup de baroque. Hein.
C'était le répertoire qui était comme ça.
C'était comme ça,
Mais
voilà.
en revanche, il y a eu des musiques de la Renaissance avant du Moyen Âge. Il y a eu les musiques royales, il y a eu les musiques de Lully, il y a eu bien avant aussi Jean-Joseph Mouret, Claude Gervaise, avec ses Brahms de Bourgogne, qui jouait tout seul après les concertos à Pleyel. Quand il avait fini de jouer pendant 1 heure et demie à Pleyel, et il y avait un rappel, et puis il venait avec sa petite trompette, et puis il jouait, et ben maintenant, une Brahms de Bourgogne. Pam, 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 pam. Musique du Moyen Âge. Et à chaque fois, c'était un petit peu un rituel avec Maurice. Hein. Et c'était un son. Il venait de jouer plus d'une heure et demie, et il jouait ça comme si il n'avait pas joué avant. C'est-à-dire, il n'était pas fatigué. Et ça revient à dire ce que je dis tout à l'heure. Il n'était pas fatigué. Parce qu'il ne forçait pas, parce qu'il avait l'énergie, mais dans le ventre et dans le dos. Et tout se passe, rien ne se passe entre la poitrine et les lèvres. Il faut que le masque, les lèvres restent figés, musclés, mais il ne faut pas éviter d'appuyer surtout. Mais si la marmite qui prépare la musique, qui est en bas, la chaufferie qui est en bas dans le ventre et dans les dorsaux, ne marche pas, le son ne vient pas, la musique ne vient pas. Alors, quelquefois, souvent, comme elle ne vient pas, beaucoup ont tendance à forcer et à vouloir la jouer par le haut et donc à l'éjecter. Ben, la musique, elle n'aime pas qu'on la foute dehors.
D'accord. Et alors, en fait, la trompette, bon, mais bon, c'est un cuivre. Est-ce que tous les cuivres, c'est...
C'est du pergote. Les dernières trompettes que j'ai eues, les Selmer et tout, on appelle ça du pergote. Alors, moi, je ne suis pas technicien, mais enfin,
Oui,
bon.
mais ce sont des cuivres. Est-ce que
Oui,
tous les cuivres, c'est la même pour faire sortir le son, est-ce que c'est la même technique?
moi
Par exemple, le
j'ai.
trombone, la trompette, le cor,
Oui, c'est les mêmes techniques.
c'est les
Oui,
mêmes
c'est-à-dire que
techniques.
moi j'ai joué du cor aussi, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des messes de
Le
Saint-Hubert
cor, c'est pas évident
au
non plus,
cor de
hein.
chasse. Mais quand on s'arrange bien au clairon, à la trompette, le cor ça passe tout seul. Hein.
D'accord.
C'est pas un problème. Il faut rester derrière, faut pas être sur l'air. Faut être sur l'air, faut être sur le souffle du chant et pas la soufflerie. Quand on vous dit, ah, faut souffler dans la trompette, c'est rien de pire que de vouloir souffler dans la trompette. Et Pichereau disait, donc le grand maître, hein, qui a donné des cours à Lionel André, qui était très ami avec Maurice, il disait, il ne faut rien faire, tout se fait à l'intérieur du corps. Et il me dit, regarde un chat respirer. Eh ben, on voit le mouvement du chat, on voit comment ça fonctionne. Il me dit, ben, c'est comme ça que ça joue. C'est pas autrement. Sinon, c'est cuit. Et j'en ai eu les preuves.
Alors, dans la trompette, il y a l'embouchure, le tuyau, le pavillon.
Oui.
Et l'ensemble fait 1,50 m de long. C'est ça à peu
Ouais, j'ai
près.
pas mesuré. Enfin,
Ben, sur ce
j'ai
que j'ai
plusieurs
vu,
trompettes.
la technique au niveau de quand ils fabriquent les
J'ai.
trompettes, en fait,
Ah
le
oui.
tuyau, parce que bon, ben, il est arrondi, enfin,
Oui,
il
oui.
revient, ça fait 1,50 m de long, l'ensemble. Ce qui est pas mal quand même, déjà.
Je me rappelle, mon père, il avait dans les années 40, 30, enfin, il avait un cornet à piston. Il était plutôt arrondi, c'était marrant. C'était le même qu'avait Bourvil, hein, parce que Bourvil jouait du cornet à
Ouais,
piston.
je sais.
Et puis, les bugles, c'est quelque chose de plus épais, de plus rondouillard, de plus gros, mais ça donne un son plus mat, le bugle. Voilà. Et sinon, il y a la trompette classique. Bon, les marques les plus connues pour la France, c'est Selmer, hein. Et puis il y a Courtois, et puis enfin voilà, c'est.
Et alors, Maurice André, il a fait pendant 5 ans, il a étudié les attaques et les sonorités. Alors, il a étudié les attaques et les sonorités. Il faut m'expliquer ce que c'est. Bon, c'était.
L'attaque, en fait, il n'y a pas d'attaque. C'est,
Bah,
je
c'est
sais
ce qu'il
pas qui a écrit
expliquait.
ça. Ouais, mais c'est, faut pas. Enfin, normalement, il n'y a pas d'attaque. C'est, on appelle ça une émission.
D'accord.
Moi, j'ai essayé sur le. Parce que c'est tombé comme ça, parce que j'avais envie de le jouer, sur le concert de Haydn. Au début, c'est. Bon. Eh bien, on s'aperçoit que quand on n'attaque pas, c'est-à-dire, ben ça marche, on tient le coup très longtemps. Mais si on commence par, dans la force, par là, on est trop sur la lèvre, on oublie d'être sur l'air, donc sur le souffle du chant, et c'est cuit.
Ah bah, il dit, afin d'éviter les attaques qui se déchirent, qui déchirent.
Non, mais ça, c'est après, c'est dans le courant de l'air, ça, c'est dans le courant du morceau. Ouais. Mais la première émission, elle ne doit pas taper comme un sourd. C'est, en fait, c'est, il faut jouer comme on chante. Et je ne peux pas le faire là, parce que c'est pas...
Il faut rester le plus naturel possible, en fait.
Et en fait, c'est une forme de yoga. Pichereau m'en reparlait toujours. Ah non, là, tu t'écoutes jouer, t'es parti trop haut, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Tu recommences, et tu restes sur l'air, et tu te concentres sur l'air, tu te concentres sur l'expiration. En fait, ce qui donne le son, normalement, c'est-à-dire, en fait, naturellement, c'est sur l'expiration, et quand il y a l'expiration naturelle, le diaphragme remonte.
D'accord.
Ouais. Et c'est là que la musique naît. N-A-I-T.
D'accord.
Et c'est là que ça se passe. Et quand on ressent ça à l'intérieur, en général, ça se passe assez bien. Mais c'est des moments, entre guillemets, miraculeux, parce qu'il faut être très détendu et très concentré. Et c'est pas toujours facile d'être très détendu. Et moi, je ne sais pas comment Maurice a fait pour être détendu.
Voilà, c'était ma question. Alors, en fait, quelle a été, si vous l'avez connu, vous avez discuté avec lui?
Oui, il parlait, mais je n'ai pas vu.
Peut-être pas spécialement de musique,
non,
en fait.
Non, non.
Parliez comme ça de...
Oui,
de...
voilà. Ouais. Et je n'ai pas... Je vous dis, j'ai croisé avec Pichereau, qui connaissait bien Saint-Séverin, à l'église, avant le concert. Et je l'ai revu pour essayer pour les livres, au concours de la ville de Paris. Et parce que je revenais à la charge souvent, parce que un éditeur, c'est toujours un grand malade, hein, ça revient à la charge. Et puis, en fait, j'ai eu l'idée, j'ai appelé Guy Touvron, qui était un de ses principaux élèves, hein, et c'est lui qui a fait le livre, qui est là.
Alors, vous avez un livre qui est... C'est le seul qui reste, en fait.
C'est le seul qui reste, il est épuisé.
C'est un inédit.
Il a été édité
Édité, mais il n'existe plus.
Il n'existe plus, hein. Il a été édité en septembre 2003. Et c'est Guy Touvron, un de ses principaux élèves, comme Berlin Soustraux et Thierry Kans. Il a fait le livre. Et moi, j'ai eu le plaisir de faire la discographie détaillée de toute la discographie Erato et Pathé à la fin du volume.
D'accord.
Et c'est le seul qui existe sur Maurice André. Parce que,
donc c'est vous qui l'avez, le dernier livre, en fait.
C'est celui que...
Le dernier exemplaire qui
voilà,
reste, c'est
oui, vous qui... Il y a des gens qui l'ont, hein. Il est vendu à l'époque.
Mais on ne le trouve plus dans le commerce, quoi, en fait.
On peut le trouver sur des sites où il y a des trucs qui, d'occasion, je ne sais pas.
Comment il s'appelle, le livre, Maurice André?
Alors, Maurice André, une trompette pour la renommée.
Une trompette pour la renommée. Ouais. D'accord, ouais. Donc on voit le visage de Maurice André, jouant de la trompette, hein. Et... Guy Touvron.
Guy Touvron, c'est un de ses
principaux. C'est lui qui a fait le
livre. Oui, et moi j'ai fait la discographie à la fin.
D'accord. Ouais.
Parce qu'en fait j'ai tout.
Le solfège, je ne connais pas le livre. Je tourne une page, page 21, le solfège, le premier instrument. D'accord. Ouais. Donc il savait très bien lire le solfège, quoi.
Bah, il lisait solfège comme moi, j'ai une bande dessinée.
Voilà, et c'est... Bah oui, de toute façon, à son niveau, pour beaucoup, quelle question, quoi.
Non, mais la magie, c'est la lecture à vue. C'est-à-dire, la lecture
c'est
à vue, on appelle ça... Moi,
j'ai fréquenté les conservatoires.
Pour les gens qui rentrent en studio, un studio, c'est cher, les heures. C'est 3 heures, c'est calculé toutes les 3 heures. S'il y a un gars, un violon, un piano ou un saxo qui a du mal à lire une partition vite fait, il fait perdre du temps et donc de l'argent. Donc, ils prennent que des grands lecteurs. On appelle ça les grands lecteurs. Et Maurice, c'est un
entraînement, ça aussi. Hein.
Bah, c'est un boulot de fou.
En fait, on lit à vue
comme on lit un livre, journal, une bande dessinée. Ouais. Et ça a été pour moi, c'est pour ça que j'ai été clairon à la deuxième région aérienne en 71. Mais j'étais déjà content, parce qu'on m'a dit, Olivier, vous avez un joli son, clairon, c'est très bien, ça fera l'affaire. J'étais content, parce que j'ai rencontré des grands musiciens, et grâce à ça, j'étais au conservatoire.
Vous avez le conservatoire aussi.
En 71, donc à la mairie du 10e, j'ai eu un petit prix, j'étais content. Et puis après, je suis retourné travailler. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, alors ça c'est sociologiquement intéressant, beaucoup de gens s'engageaient dans l'armée.
Pour être dans la musique.
Pour être dans la musique, mais pour aller jusqu'au Grand Prix de conservatoire, donc c'était le Prix de Paris, de la rue de Madrid. Parce que, si vous voulez, vous faites votre année, mais après, il faut travailler, ou retourner à l'école, j'en sais rien.
On ne gagne pas sa vie.
On ne gagne pas sa vie en allant au conservatoire.
Bah,
donc, pour pouvoir aller au conservatoire, la plupart des gens qui étaient là, qui étaient au conservatoire, mais au conservatoire national supérieur de la ville de Paris, ils s'étaient engagés. Sinon, ils ne pouvaient pas. Voilà. Et moi, j'étais déjà à la télévision et je suis retourné à la télé, quoi. Voilà. Je suis un peu un éparpillé, moi, mais bon, je me débrouille.
Bah oui.
Mais je suis un passionné par plein de choses, alors c'est ça qui est embêtant. Parce qu'un jour, on m'a dit, oui, il faut choisir, hein, c'est le piano, la trompette, ou l'édition, ou la télé. Ou... Bah, je dis, bah,
le problème, c'est qu'il faut faire des choix.
Le problème, c'est que tout m'intéresse.
On ne peut pas tout faire.
Ben oui.
Et je sais, je connais. Je passe par là aussi.
Ah bon, enchanté.
Vu que je prends de l'âge, ben, je suis toujours pareil. Quoi.
Mais non,
je suis toujours comme à 20 ans. Quoi. Ouais. Donc, j'ai toujours... ouais, tout m'intéresse, en fait.
Mais vous savez, quand on est passionné, que ce soit par la musique, littérature, enfin...
Tout ce qui est artistique...
En général, on dure assez longtemps, je trouve, si on ne fait pas de bêtises.
Oui. Oui,
et Maurice, il n'était pas contre un petit coup de... Il est du midi, hein, attention.
Non, mais arriver à un niveau comme Maurice André...
mais c'est une force,
un trompette,
c'est une force de la nature.
Et quelquefois, c'est exceptionnel.
On lui a dit, mais comment vous faites? C'est incroyable. On lui expliquait et lui, il disait, bah, je sais pas. Je m'en rends pas compte. C'est naturel. Mais il travaillait beaucoup.
Mais oui, il faisait que travailler.
Quand il revenait de tourner,
le fameux Jean Dumasson, mais il travaillait tout le temps.
Bah, il donnait des cours chez lui après Lambry, là, à l'époque. Jean-Louis me disait, bah, attends, je donnais des cours à Nicolas. Puis il y a Maurice qui arrive le matin et tout. Il revenait d'Allemagne. Il se rappelait, ça l'avait marqué. Et puis il arrive, il va se faire son café et tout, puis il se fout à la trompette.
C'est des sportifs de haut niveau.
Voilà, et il commence à travailler. Il revenait de tourner de je sais pas où, il arrive au bout d'une heure, il se remet à bosser les gammes, les machins, les émissions et les filages de son. C'est-à-dire, il faut que le son soit émis naturellement et après, il faut qu'il tienne. Mais pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait cette expiration naturelle par le diaphragme. Sinon, ça fonctionne pas. On appelle ça le filage de son. Ça, c'est la règle d'or. Filer le son.
D'accord. Chers auditeurs, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Aujourd'hui, je reçois Olivier Delaveau, passionné, ben, vous l'avez compris, par Maurice André. Je le suis aussi. Hein. Et donc, l'émission a pour thème Maurice André, tout simplement. Donc, je fais une annonce. C'est Françoise Icard qui organise... un salon d'impression photographique qui va se dérouler au musée Matra, à l'espace musée Matra à Romorantin. Voilà. Le 14 avril à 18h, salle Beaulieu du musée Espace Matra. Et donc l'exposition aura lieu du 14 au 21 avril 2026, ouvert de 11h à 18h. Nous passons d'ailleurs un grand bonjour à Françoise Icard, que Radio Courtoisie connaît très bien. Voilà. Chers auditeurs, on va passer un extrait de l'Allegro Energico. Thank you. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc aujourd'hui, je reçois Olivier Delavaux, thème de l'émission, Maurice André. Donc en fait, après la musique, bon, on a vu que ça venait de la Grèce antique. Après, ça a été de l'époque médiévale. Et puis après, c'est devenu dans le jazz. Donc, il y a eu la trompette, je parle de la trompette. Hein. La trompette a été dans le jazz, comme par exemple Louis Armstrong.
Oui, et avant c'était Biggs Betterbecks.
D'accord.
Avant Armstrong, et Armstrong, c'est mondialement connu. Hein. Et alors, ce qui se passe...
Donc oui, c'est encore une autre démarche artistique.
Hein. Plein d'autres trompettistes de jazz, où je ne me rappelle plus tous les noms, des disques, des choses, parce que je ne suis pas enfermé dans un seul truc. Bon, c'est vrai que c'est Maurice qui domine avec le répertoire classique, mais disons que je connais certaines choses dans le jazz. Parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup d'amis musiciens dans le jazz.
D'accord.
Il y en a même un qui me disait, « Ah bah Olivier, qu'est-ce que tu fous au jazz, au classique, c'est dur. » Je dis, « Oui, mais j'étais pas très bon pour ça. » Et ce qu'il y a, c'est que dans le classique, si à un moment, en public, si un truc qui va pas, que ça dérape, le son déraille, ça s'entend tout de suite, c'est un truc. Tandis que dans même la variété de jazz, s'il y a un truc pas très... ça, personne fait attention. Un truc bon. Pas pour ça que c'est négligé, ça veut rien dire. Et donc, oui, il y a eu Louis Armstrong et Dizzy Gillespie. Et bien d'autres. Hein. Je connais moins.
Comment il s'appelait le musicien de jazz qui était ami avec Julia Gréco, Miles Davis.
Oui, mais ça, c'est plus après ça.
C'est plus après.
J'y vais un peu dans le... Ouais. Miles Davis, Jimmy Owens, les derniers grands, c'est... Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis... Enfin, le jazz, ça dure très très longtemps. Et je me souviens des émissions de Jacques Sancel, où Maurice André a été invité plusieurs fois, et un jour, il y avait une soirée... Au Grand Échiquier, oui. Il y avait Dizzy Gillespie qui était invité.
D'accord.
Et c'est celui qui gonflait les joues, là. Et puis Maurice et Dizzy étaient très copains. Ils ont même fait une tournée ensemble sur un bateau, avec Guy Touvron, d'ailleurs. Et... à un moment, Maurice fait une farce à Dizzy, je crois. Il joue de la trompette, puis il redresse sa trompette comme Dizzy fait, parce que Dizzy Gillespie avait tout le pavillon qui remontait en l'air avec les joues qui gonflaient. C'était un peu sa marque, son image de marque dans le métier, quoi.
Aussi, ouais.
Et ils ont joué tous les deux. Donc, il y avait le grand jazzman qui improvisait souvent. Et puis, Maurice André. Donc, comme quoi, un grand trompettiste classique peut... jouer des choses avec un grand trompettiste de jazz, grand ou pas grand d'ailleurs, peu importe.
Mmh. Et bon, c'est le plaisir de la musique.
C'est le plaisir de la musique, voilà.
Et puis il y a une espèce d'être ensemble aussi.
Il y a une amitié. Enfin, je veux dire, c'est comme
partager.
Oui, moi, ça m'est arrivé dans la musique, mais dans le monde, dans le monde musical, un peu de la chanson ou du rock. Enfin, il y a une espèce de ça se passe bien, quoi. Et puis avec Jacques Chancel, ça se passait très bien, parce qu'il n'y en a plus beaucoup.
C'était des grandes émissions.
Hein, parce que moi, j'y étais à l'époque.
C'était des grandes émissions.
Je prenais la télé à l'époque. Ouais. Il y avait des grands personnages qui se foutaient pas du monde.
À l'époque, il y avait des grandes émissions. Il y avait Jacques Chancel, il y avait des dossiers de l'écran.
Il y avait les Tcharnia, il y avait les Denise Glaser. Il y avait beaucoup de gens qui se fichaient pas du monde. Vous voyez
Maintenant,
je dis rien.
On dit rien. C'est bien. Et donc, on parle. Donc, alors, Maurice André remporte en 1955 le premier prix du prestigieux concours de Genève, mais c'est en 1963 que sa renommée devient internationale. Il avait 30 ans. 33, 43, 53, 63.
Et le premier disque classique à l'écart.
Donc, que sa renommée devient internationale, après avoir obtenu le premier prix du concours de Munich. Donc, à 30 ans,
ça,
il était connu dans le monde.
C'est énorme. C'est...
Donc, c'est en fait, c'est très court. C'est 30 ans, quand on, de 0 à 30 ans, de 0 à 10 ans, déjà, on est un enfant. Donc, dans sa vie, connu à 30 ans, on peut s'imaginer le travail qu'il a fait derrière, quoi. Être connu dans le monde entier, pour être à un tel niveau à 30 ans.
Il aimait ça, il travaillait beaucoup, il était à la mine, il était...
Et il travaillait à la mine de 14 à 18 ans.
Très solide.
Et la mine, c'est pas un travail de tout repos. Hein.
Il était très solide physiquement. Et ce qu'on m'avait dit, ce que Pichereau me disait et d'autres musiciens, dit Maurice, le truc, c'est que quand il amenait la trompette, ça touchait à peine la lèvre que le son sortait tout seul. Parce qu'il y avait l'instinct d'expirer naturellement. Et le son arrivait tout seul. Et c'était le plaisir de jouer. Si on n'a pas le plaisir de jouer, ça ne marche pas.
Ah ben non, ça ne marche pas. Mais de toute façon, il faut déjà, quelle que soit la démarche artistique que l'on entreprend, la musique, la peinture, la sculpture, le théâtre, il faut avoir le plaisir.
Oui, mais là, c'est très physique.
Ah oui, c'est si très physique. Il y avait oui, c'est des sportifs de haut niveau.
Il y avait un livre d'une dame qui s'appelait Michel Opneau, qui s'appelait « Le violon intérieur », et que beaucoup d'instrumentistes avant peuvent lire, en fait. Parce que c'est la position corporelle pour le violon. Le violon aussi, il y a une tenue de l'archet, de la joue, de l'épaule. Il y a aussi un problème de concentration, d'expiration et de respiration.
Tous les instruments. Hein.
Et Chiro m'a dit, tiens, lis ça, le violon intérieur, tu vas voir, ça va t'aider pour la trompette.
Regardez un...
Parce que c'est corporel.
Regardez un concerto de... Bon, bah, actuellement, là, c'est Katia Bunajvili au piano, ou Yuang au piano aussi. Regardez-les jouer... C'est impressionnant, quoi. Je veux dire, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement.
C'est des heures, mais voilà, à un moment, on est dans une espèce de nirvana, parce que moi, j'ai vu des...
Voilà, on est ailleurs, en fait. Parce qu'on se pose des questions, quand même.
Dans tous les... Ce qu'a enregistré Maurice, il y a souvent des grands violinistes. Il y avait un certain Valèze, mais surtout, enfin, pour les instrumentistes avant, il y avait Pierre Pirlo au hautbois. Le plus grand hautboisiste du monde. Et Paul Hong au basson, Ryu au corps d'harmonie, et surtout... un musicien français presque aussi connu que Maurice dans le monde, le flûtiste Jean-Pierre Rampal.
D'accord.
Ah ouais, là, c'est quelque chose aussi. Bon, il était moins connu que Maurice dans le monde, mais il était très très connu. Regardez, tout le monde connaît Rostropovitch. Voilà. Et ben, Rampal, Maurice André, c'est le même niveau au niveau de l'image, de la notoriété. Enfin, en tout cas, dans le monde occidental. Et je sais qu'en Amérique du Sud, il était connu aussi. Quand il a enregistré le morceau, il avait enregistré le concerto d'Hummel avant, dont on a attendu le troisième mouvement tout à l'heure. Il a réenregistré le concerto en mi bémol de Hummel avec Herbert von Karajan. Et donc c'était sorti, c'est Deutsche Grammophon, je crois. Et c'est pas chez Erato. Hein. Il y a eu quelques 33 tours chez Deutsche Grammophon avant qu'il passe chez Pathé. Bon. Et ce qui se passe, c'est que ça a été une des plus grosses ventes dans le monde de disques classiques. Parce que Karajan, la célébrité, plus Maurice André, haute célébrité, les ventes ont explosé, elles ont dépassé le million d'exemplaires. Pour un disque classique, c'était pas courant.
C'est pas courant, non. Parce que
Maurice André plus Karajan, c'est une conflagration. Et c'est marrant parce que le concerto d'Hummel avec Karajan est beaucoup plus tandis que celui qu'il avait enregistré avant, c'est un autre monde. Alors, au niveau de l'énergie, de la direction d'orchestre,
expliquez-moi là,
c'est intéressant là.
Maurice André, il jouait de la trompette piccolo.
Alors, piccolo, alors,
il explique que la trompette piccolo, c'était pour pas écraser les autres instruments dans l'orchestre.
Pas une fois que j'entends ça.
Comment?
Je suis content d'apprendre des trucs. Hein. Moi, je m'en suis payé une très longtemps.
Alors, c'est quoi le piccolo?
Elle est toute petite, on appelle ça la trompette piccolo baroque. Et c'était une trompette à quatre pistons au lieu de trois.
La trompette, c'est trois pistons.
Et là, la trompette baroque piccolo, on a quatre. Le quatrième, c'est pour aller dans les graves. Parce que c'est une trompette.
C'est pour accentuer les graves?
C'est pour aller dans les graves.
En revanche.
Sinon, on joue avec les trois premiers pistons, comme la trompette, mais c'est souvent dans les aigus et le suraigu, et c'est comme ça qu'on joue les Vivaldi, les Torelli, les Tartini, les Georges-Philippe Telemann, les Handel, Water Music d'Handel. J'ai eu l'occasion de le jouer comme ça. Certaines choses.
En
comme
fait,
ça.
C'est une question de son, en
et
fait.
C'est une question de son, mais ça a révolutionné un petit peu le monde des concerts classiques et du disque hein, en matière de classique. Parce que dès qu'on voyait un nouveau Maurice André, des nouveaux concertos baroques avec la piccolo, c'était comme si c'était à l'idée. Hein. Ils vendaient des disques. Hein. C'était énorme. Non, mais vous allez dire c'est bizarre, mais non, c'est comme ça. Maurice André jouait pour... il était aimé, admiré par ce que j'appellerais... un petit peu quand même la France profonde, parce que beaucoup de gens venaient de là. C'est-à-dire que dans les grands orchestres classiques, ou baroques, peu importe, vous avez des cordes, il y a des hiérarchies, et il y a des classes sociales.
Alors, il y a des hiérarchies dans les orchestres?
C'est comme dans les syndics de copropriété. Là, la France Vous avez les en haut, enfin le comment on appelle ça, au-dessus, le chapeau à plumes, hein, les violons, le piano, la harpe, le hautbois, les bassons, les hanches, quoi, qu'on appelle. Hein. Mmh. Après, bon, une fois que les cordes sont passées, le piano et que les hanches sont passées au bois, tout ça, bassons, cor anglais aussi, très important. Vous avez ce qu'on appelle les instrumentistes à embouchure. Alors là, c'est une autre classe sociale parce que ceux-là.
À embouchure, oui, mais, donc c'est trompette.
Ceux-là, ils viennent des fanfares, c'est les fanfouilles, C'est un peu. C'est comme le film Fanfare, là, qui est sorti en 2024, ça a eu beaucoup de succès. Et quand on voit le public qui a été voir Fanfare, c'est pas une public. Certaine France profonde. Hein. Et ouais. Vous savez ce que dit Guy Touvron dans l'introduction de son livre, il a choisi une analecte. Une nation s'éteint quand elle ne réagit plus aux fanfares. La décadence et la mort de la trompette. Ouais. Signé Sioran.
Ah, Sioran, oui. D'accord.
Ça en dit long. Hein. Et moi, j'ai subi ça. Ah oui, non, c'est un trompettiste. Ils ont tous commencé dans les fanfouilles et ils jouent des musiques militaires. Donc, on est un peu des primaires, en fait. C'est... je me souviens de certaines moqueries. Hein. Ah ouais, tu joues la trompette de cavalerie. Alors, j'ai dit, attendez, écoutez Armstrong, écoutez Maurice André, écoutez Bix Beterbeck, écoutez Arturo Sandoval, Adolphe Charbaud. Ça suffit. C'est... Mais non, il y a une espèce de... alors maintenant, ça a un peu changé avec Ibrahim Malouf, dont le père était un élève de Maurice André. Et le père d'Ibrahim Malouf avait
Donc le père était un élève de Maurice André.
Le père d'Ibrahim Malouf, et pardon. Le père d'Ibrahim Malouf, qui est aujourd'hui très connu, qui joue très bien, il joue partout, enfin, il joue pas que du classique, c'est un peu dans tous les sens, bon, bref, mais il joue très bien. Il est sur l'air. Bon. Eh bien, son père était un élève de Maurice André.
Ah oui.
Et le père d'Ibrahim Malouf, il a inventé la trompette au quart de ton pour jouer la musique orientale.
D'accord.
Au Liban.
Quart de ton.
Des trompettes au quart de ton pour faire des musiques, des accords, des harmoniques orientales.
Oui, d'accord, je comprends bien.
C'est très joli, les trucs, bon. Et son fils, Ibrahim Malouf, donc, joue aujourd'hui, c'est un des trompettistes les plus connus aujourd'hui, maintenant. Mais il est moins connu aujourd'hui qu'il a été Maurice en son temps. On ne peut pas comparer. Voilà. Mais maintenant, on attend encore des émissions comme celle de Sancel et d'autres, même Jacques Martin. Maurice André venait souvent, c'est Jacques Martin. Ça correspondait à une certaine France.
Mais Jacques Martin, c'était un chanteur d'opéra aussi.
Ouais, bon, ça correspondait à une certaine France, et un certain public.
Mais bien sûr.
Maurice vient nous jouer Tartini ou Torelli. Bon, et ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est fini. On ne les voit plus. Et ce musicien le plus connu dans le monde, Maurice André, personne n'en parle, c'est fini.
Et voilà, est-ce qu'on en parle maintenant? On n'en parle plus. On est sur Radio Courtoisie, on en parle.
Tout ce qu'on a fait, les grandes choses en France, on n'en parle plus. Il ne faut pas en parler, c'est pas bien. Pourquoi? Ah, bah, c'est la France, alors ah oui, mais dites donc.
Mais si, il faut en parler.
Vous n'êtes pas un
justement.
Petit peu. Bah oui.
C'est vraiment. C'est le plus grand musicien du monde qui est.
En tout cas, dans sa partie.
Dans sa partie.
Moi, je pense que il est meilleur à la trompette que Pavarotti l'était au chant. Et la technique de chant de Pavarotti, c'est la même. Hein. C'est si on chante pas comme.
Il y a une tessiture aussi.
Oui, mais il faut être sur le souffle du chant. Et donc, il n'y a pas de voix de tête vraiment. C'est le ventre et les dorsaux qui font le travail et la concentration extrême. Hein.
On reste dans la musique. Bon, on va parler. C'est juste un tout petit poème, trois lignes, quatre lignes, juste pour donner un ton musical. Si j'avais un violon, je me mettrais, madame, à mon cœur défendant, contre vos deux genoux, pour vous offrir mon âme de chevalier servant. C'est de Daniel Ancelet. Je trouvais que c'était joli sur la musique. Quoi. C'était un petit petit bémol sur la musique. Quoi. Ouais.
Ben ça va ensemble.
Ça va ensemble. Voilà. Donc, Maurice André est aussi conseiller artistique chez Henri Selmer.
Oui, c'est l'usine de trompette Henri Selmer. Moi, j'ai eu des Selmer au début quand j'étais jeune.
De 66 à 85 quand même.
Oui, et Selmer, j'ai la Piccolo Selmer que j'ai achetée à l'époque. J'ai toujours ma première trompette. Que j'ai acheté à l'époque aussi, la Selmer, la grande. Voilà, c'est. on avait tout ça à l'époque, hein, Selmer, et donc Maurice André était entré chez Selmer à l'usine, il était chez lui, il essayait des instruments, des nouvelles choses, voilà.
Et alors Maurice André avait une maison, il n'était pas dans un appartement, je veux dire, il avait une maison.
Il habitait après Lambry dans une grande maison.
Voilà, dans une grande maison. Oui, oui. Il pouvait s'adonner.
Ah bah, il pouvait jouer dans le jardin, hein, le avec son chien.
Jardin,
vous savez, Pichereau m'avait conseillé de jouer dans les bois. Et avec un autre élève de Pichereau qui a donné des leçons à Nicolas, Jean-Louis Masson, quelquefois on avait joué en forêt. On travaillait.
Je ne suis pas étonné. Ouais.
Parce que c'est
bien.
On ne gênait personne. C'était à une époque où.
Et le son se diffuse.
Oui, oui. Et puis on n'était pas attiré par le. Comme dans une cathédrale, par. Ah, écoute, ce que j'ai fait, c'est bien. Non. On était vraiment sur l'air, et après on était en forme pour jouer d'autres choses intérieurement dans un espace clos. À l'époque, on n'était pas embêtés. Aujourd'hui, vous jouez à trompette dans une forêt, on vient vous demander d'arrêter.
Par contre, ça dépend où.
Attendez, parce que les trucs qu'on n'arrête pas aujourd'hui, dans les campagnes ou les forêts, s'il y a 10 000 personnes qui font une rave, là on ne les arrête pas, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que moi, ouais. Si j'y vais, monsieur, au poste. Si.
C'est comme ça que ça se passe.
C'est comme ça que ça se passe.
On va écouter. Le concerto, je vous laisse. Concerto pour trompette de Mozart, c'est ça?
Alors.
Allegro.
C'est le concerto. C'est le troisième et dernier mouvement du concerto de Wolfgang Amadeus Mozart. À l'origine, alors c'est une transcription, c'était le concerto pour clarinette. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup de transcriptions, mais à la note près et dans la même tonalité. Attention. Hein.
Que Maurice André faisait?
Ah, c'était la même tonalité que les originaux.
Incroyable.
Et à l'époque,
incroyable.
Les gens à l'époque, ah bah tiens, il n'est pas là, le flûtiste, bah t'as qu'à la faire au bois. Je parle au XVIIIe siècle, hein, à l'époque, quand. Beaucoup d'instruments avant pouvaient s'interchanger quand il y en a un qui n'était pas là. Ah, oh bah tiens, aujourd'hui on va changer, on va faire ça au bois ou à la flûte. Mmh. Maurice, dans les mêmes tonalités et les mêmes notes, il fait exactement ça. Il a fait même les airs d'opéra comme ça.
On va l'écouter là.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Thank you.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre Journal des Beaux-Arts. Donc là, on a écouté un extrait de musique qui a duré 2 minutes. Et vous avez pu admirer à l'écoute la virtuosité de Maurice André. Donc le thème de l'émission, bien sûr, c'est Maurice André, trompettiste... Le plus grand trompettiste qu'il y ait eu, hein, on peut le dire. Hein,
alors, dans les années 90, il a été classé premier trompettiste dans le monde, devant Armstrong, Miles Davis, Arturo Sandoval, Dizzy Gillespie, Timofey de Singer, son grand rival russe, Adolf Scharbaum, son rival allemand, et il est resté numéro un de nombreuses décennies.
Vous vouliez nous dire un petit mot de Bach ?
Oui, parce qu'on va... Écoutez une œuvre de Bach tout à l'heure qui est absolument, pas à trompette en tout cas, qui est révélatrice de beaucoup de choses.
C'est Maurice André qui a le transcrit
ou... Non, là c'est naturel, c'est vraiment, c'est le concerto brandebourgeois numéro 2.
D'accord.
C'est passé le troisième mouvement.
On écoutera un extrait tout à l'heure.
Voilà, le troisième mouvement, le final. Moi j'avais vu en fin 1971, un peu après mon passage à musique de la 2e région aérienne à l'armée, j'avais été écouter la messe en si mineur de Bach à la basilique de Saint-Denis.
D'accord.
Je m'en souviens encore. Je revois où j'étais, je revois l'orchestre, je vois Maurice au fond.
Ouais, c'est inoubliable,
au fond,
en fait.
On n'oublie pas. La messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach à la basilique de Saint-Denis.
Jean-Sébastien Bach.
Là où il y a les rois.
C'est quelque chose, hein, quand même.
Et c'est inoubliable. Il y avait une trompettiste anglaise à côté de lui, je crois, anglaise ou allemande. Parce qu'il y a des femmes trompettistes, hein, aujourd'hui. Et... qui se débrouille vraiment bien. Hein. Et la preuve qu'il ne faut pas jouer sur la force, il faut l'énergie, mais pas la force. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la brutalité, il faut l'énergie profonde, celle du yoga. Et si vous voulez, quand on joue de la trompette, comme Maurice, ou quand on chante comme Pavarotti et d'autres, il
n'y
a même plus besoin de faire du yoga, parce que quand vous jouez, vous faites du yoga. C'est du yoga intérieur, hein, du
d'accord,
yoga
d'accord.
Assis. Hein.
C'est, ouais. Et, telle concentration.
Oui. Et si vous voulez, la messe en si mineur dure un bon bout de temps, hein, mais j'étais dans les nuages pendant une heure et demie presque. Hein, et je suis en train de me demander, hélas, aujourd'hui, si on pourrait jouer la messe en si mineur à la basilique de Saint-Denis.
Et pourquoi ?
Bon, comme ça. Mais c'est un souvenir inoubliable. La messe en si mineur de Bach, il y a aussi une autre chose de Jean-Sébastien Bach, c'est la badinerie, bien sûr.
Jean-Sébastien Bach.
Mais aussi le Magnificat.
C'est exceptionnel.
Le Magnificat de Bach, c'est aussi.
Bach,
voilà. Mais la grande œuvre, c'est la messe en si mineur. Voilà.
Et Ouais, je suis.
Non, mais on peut parler de Bach, de Vivaldi, de Mozart, de Telemann, d'Handel, des grands compositeurs, mais aussi des grands compositeurs contemporains comme Tomasi ou Jolivet et d'autres, Bernard Crowe et tout. Il a abordé un répertoire contemporain du XXe siècle qui est méconnu, qui est très dur à jouer. Quand on vous met la partition devant le nez, vous dites, bon, bah là.
Alors là, je connais pas les partitions de la trompette. Il y a la clé de fa aussi, ou c'est que de la clé de sol?
Non, c'est clé de sol. Ah, il y a la clé d'ut aussi, pour certains morceaux. Mais enfin, moi, toutes les partitions que j'ai de Vivaldi, d'Handel, de Hummel, de Haydn, je les ai toutes, hein, eh bien, c'est clé de sol.
D'accord.
Bon, alors c'est concerto en mi bémol. En revanche, quand vous avez le concerto de Haydn en mi bémol majeur, si vous avez une trompette en ut, vous la jouez. Ça commence par mi bémol, mi fa sol la si do ré. Bon, on commence sur le mi bémol avec une trompette en ut. Non, attendez.
Ouais.
Oui. En revanche, si vous avez une trompette en si bémol, eh bien, vous commencez sur le fa. Fa sol la do, fa sol la si do ré, mi fa ré do. Ah oui, parce que la trompette est en si bémol, donc il faut jouer au-dessus du mi bémol.
Elle est toujours en si bémol, la trompette?
Non, il y a la trompette en fa, il y a la trompette en ut. Et la trompette en si bémol.
D'accord.
Le si bémol, c'est beaucoup pour les fanfares et le jazz qu'on l'utilise. Et la trompette en ut, c'est plus pour le classique. La variété.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Maintenant, quand on joue les concertos en mi bémol, comme ceux du Mel ou de Haydn, quand on a la trompette en ut, on joue avec le doigté de mi bémol majeur. En revanche... si on a une trompette en si bémol, on la joue avec le doigté de fa majeur.
D'accord.
Là, ça dépend. Les trompettes en ré, pour jouer le magnificat de Bach, pour le doigté, c'est plus pratique. Bon, voilà, ça dépend des difficultés de doigté aussi. Il a été inventé la trompette en ce qu'on appelle la trompette en mi bémol naturel. C'est une mi bémol avec le doigté de do majeur.
D'accord.
J'en ai une comme ça, elle s'appelle la Schilk. C'est une trompette. On peut jouer le concerto en mi bémol de Hummel ou de Haydn, mais au lieu de faire mi fa sol ou fa sol la, on fait do ré mi. Quand Maurice jouait dans les derniers temps les concertos de Hummel et de Haydn, il les jouait avec la trompette en mi bémol naturel. C'est-à-dire, avec le doigté de do majeur, voilà.
Moi, ce qui me scotche, je dirais, quelque part, c'est quand on l'entend, on vient d'entendre, là, le concerto de Mozart, c'est la fluidité, quoi. La fluidité du son qui
c'est
est...
C'est la fluidité.
C'est
une rivière d'eau claire. C'est une source d'eau claire.
De l'eau claire, un torrent qui coule tranquille. Enfin, il y a une puissance... Il y a une puissance, et dans cette puissance, on sent la tranquillité.
Ah ben voilà. Ah. Vous avez tout dit là.
C'est ce que je ressens moi. Il y a la puissance de l'interprétation, et dans cette puissance, c'est la tranquillité quoi. Et puis la fluidité, c'est incroyable.
Et la virtuosité, parce qu'à l'intérieur, il y a des trucs, des appoggiatures incroyables, des écarts de notes. Quand on voit la partition, on se dit, comment il fait
pour
passer de là à là, et de descendre de là à là, et de monter de là à là. Et en fait, Pichereau me disait, donc ce professeur magicien un peu, là, dit, mais c'est parce qu'il reste sur l'air, il est sur l'expiration.
Tout est dans la respiration, en fait.
L'expiration. Et tout est là. Et quand on reste concentré, il me disait, concentre-toi sur ton ventre.
Ouais,
et tes dorsaux.
C'est un entraînement.
Les dorsaux, c'est les piliers qui tiennent la musique. Et c'est la marmite, c'est le ventre qui fabrique la marmite. Mais il faut rester en bas. Si tu passes au-dessus de la poitrine, tu remontes sur les lèvres et tu tiens pas 5 minutes.
Ouais. Non, c'est la puissance.
Et c'est pour ça qu'avant de le connaître, quand on faisait des balles ou des choses comme ça... Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai mal aux lèvres. Tu parles, t'es complètement en haut et tout. Quand il a vu que j'étais en haut, c'est pour ça qu'il m'a dit quand je suis arrivé, vous avez un bel étui, monsieur Delaveau, mettez votre trompette dedans. Et pendant 3 mois, je suis venu sans ma trompette. Et un jour, il m'a dit.
Ça veut un bel étui.
Et un jour, il me dit, bon, allez, tu peux amener la trompette. Uh-huh. C'est fou, hein.
Ah, c'est incroyable. Et quand on sait que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 14 ans, il était dans la mine. On se demande comment il a fait, quoi, parce que c'était quand même une personne un peu hors du commun, quand même. Franchement,
ah, y a pas d'explication.
Y a pas d'explication.
Je pense qu'il y a le don. Puis c'est une constitution physique, une faculté de se concentrer et de se détendre. Mais aussi, c'est un travail de dingue. C'est-à-dire, on a beau avoir un don et tout ça.
Le don se travaille.
Il faut quand même travailler, sinon ça passe pas.
C'est le don, si on ne travaille pas, il ne sera jamais développé.
Ne serait-ce que le solfège et le doigté.
Tout à fait, oui. Mais c'est quand même incroyable. Hein, quand il était très connu, il était invité, je pense, dans tous les pays du monde, il a joué. Est-ce qu'il a joué aux États-Unis, plus joué en Asie
Il a joué en Allemagne et dans les pays de l'Est, en Italie, en Angleterre, beaucoup aux États-Unis, New York, Los Angeles, partout. Ce qui est intéressant, les artistes français, il y en a deux qui ont chanté à New York, hein, c'est Brel et Aznavour. Hein.
Et Claude François aussi.
Et Claude François à Londres. Et Edith Piaf, bien sûr.
François,
j'ai oublié de citer Edith Piaf tout à l'heure dans les gens très connus, les Français très connus. Il y a De Gaulle, Bardot, Piaf, Maurice André, Gabin et le Concorde.
Et le France.
Ah, à chaque fois,
j'ai oublié le France.
Et je vais vous dire, tout ce qu'on a de bien être plus connu...
Surtout le France, il est à New York.
On n'en parle pas, c'est fou.
Après,
il y a un problème.
Ouais.
Mais moi, j'étais même avec des élèves, des profs qui étaient avec Maurice ou qu'on jouait avec lui. Ils étaient chagrinés. Ils avaient du chat. Le peu de cas qu'ont fait les médias déjà quand il a disparu. On a parlé au début un petit peu comme ça. Oui, le grand trompettiste. Et puis là, puis après, salut, quoi.
Tous les grands, comme ça.
Rostropovitch, je sais plus si...
Est-ce qu'on entend encore parler, pour parler d'autre chose, mais est-ce qu'on entend encore parler de Gilbert Bécaud? Non.
Mais ça procède du même problème.
Voilà.
Ça procède du même scandale. Enfin, entre guillemets.
Un jour, je ferai une émission sur Gilbert Bécaud, parce qu'il a apporté beaucoup
de la même incohérence.
Hein. Hein.
Mais oui. Que ça soit le chant, la musique, ou c'est quand l'art est à un certain niveau, c'est un signifiant très important. C'est une expression de civilisation aussi.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc je reçois Olivier Delaveau, thème de Maurice André. Donc je vous fais une annonce. Donc l'Académie européenne des sciences, arts et lettres organise... le 10 avril, attendez voir, que je me trompe, le 10 avril à 18h30, 7 rue Lauriston, où il y aura une conférence de Maria, alors une conférence sur Maria Skłodowska-Curie, Donc, l'Académie européenne organise cette conférence et vous pouvez contacter le secrétariat secrétariat@paris.pan.pl. Donc, le téléphone, c'est +33 1 56 90 18 37. Je vous redonnerai quelques informations encore après. Parce que là, je viens d'avoir un message. Que pensez-vous du trompettiste Jean-Claude Borelli qui a connu un franc succès dans les années 70-80 avec un répertoire pop?
C'est ouvert là. Je me souviens Borelli. Il y a eu Georges Jouvin avant. Il y a eu Georges Jouvin avant qui connaissait bien Maurice, hein, et il y avait Roger Delmotte qui était un trompettiste classique important, et quand Maurice est arrivé, Roger Delmotte a dit on peut s'arrêter, c'est pas la peine. Et puis il y avait aussi un autre trompettiste, il y avait l'école Maurice André qui était la plus grande du monde à l'époque, et Pierre Thibault, voilà. D'accord. Bon, Jean-Claude Borelli, c'est... Oui,
c'était dans les années 80, ça, je pense.
Il faisait enregistrer des déserts, il jouait, ça marchait. Mais enfin, on n'est pas dans la même cour. Enfin, je ne vais pas faire le. Enfin, même Jouvin disait on est très loin là.
Alors là, j'ai à nouveau le document là, parce que je. Bon, alors, depuis le 4 octobre 2025, date de notre colloque organisé au Palais du Luxembourg à Paris autour du thème « Esprit européen », nous avons eu beaucoup de contacts avec des organismes qui s'intéressent au même sujet. La directrice du Centre scientifique à Paris de l'Académie polonaise des sciences, le professeur Aldona Katarina Jankowska, qui nous fait l'honneur, qui nous avait fait l'honneur de sa présence lors de notre colloque, vient de nous envoyer le programme des activités de son centre scientifique et souhaite nous inviter à participer au débat sur les sujets abordés. Les documents sont joints. Donc, vous pouvez donc contacter le secrétariat @paris.pan.pologne. Donc, après la conférence, ça sera une conférence qui aura lieu le 10 avril à l'Académie polonaise des sciences du Centre scientifique à Paris, 74 rue Lorisson, le 10 avril, donc de 18h30 à 20h30, entrée libre. Donc, ce sera sur Maria Skłodowska-Curie. Voilà. Donc, l'annonce est faite. Et puis alors là, je repars. Donc, on parlait de Jean-Claude Beury. Et alors, je dois remercier cette personne qui m'a envoyé ce message. Alors, merveilleuse émission, comme toujours avec Michel Colombin. On apprend plus sur la musique que dans toutes les autres émissions musicales. Ah ben, et en plus, on peut dire quand même un grand merci à Olivier Delavaux, parce que il connaît très 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 bien son sujet. Que j'ai invité déjà à deux reprises,
oui.
Sur Claude François, il avait fait une émission sur Claude François, ce qui était très intéressante. On ne connaissait pas Claude François sous ce...
Bah, on ne connaît qu'une surface...
On ne connaît que via la télé, quoi, voilà. Mais on ne connaissait pas sous ce...
Non, mais c'est le répertoire est très solide. Il y a, dans le fond, les 33 tours, il y a un répertoire.
Voilà.
Je l'ai écrit dans mon braille, quasi-braillien. On ne connaît que des paillettes festives qui l'ont énormément desservi.
Ouais,
et comme les médias sont souvent...
Très grands professionnels aussi.
Oui, et comme les médias, surtout depuis 20 ans, sont souvent désinformés et un peu feignants, on ne sait plus rien.
Ouais. Donc,
et puis l'autre émission, c'était sur les Indiens d'Amérique du Nord.
Il y avait une autre émission sur les Indiens d'Amérique.
Sur les 150 livres que j'ai publiés dans la collection Nuages Rouges. Voilà. Ouais. Alors on se dit, mais Olivier, c'est quoi l'histoire entre les Indiens, Claude François, Maurice André, puis qui d'autre encore, les Stones? Oui,
mais c'est
oui,
la passion.
Il y a aussi Sam Hagar.
Pourquoi on doit être mis dans une case?
Ouais, j'ai fait un livre sur Brel aussi.
Bah
j'adore
voilà.
Brel. Et puis j'écoute Sam Hagar Funkel. Et puis
est-ce qu'on écoute encore Brel? Est-ce qu'il y a encore des chansons de Brel qui passent?
Gilbert Bécaud.
Gilbert Bécaud.
Et puis il y a des gens intéressants aujourd'hui. Pas beaucoup. Il y a Yves Duteil. Voilà. L'art, c'est l'art. Je suis pas snob, moi. Je regarde bien un De Funès et puis un truc de Bergman. Je veux dire, je suis bon public. Hein.
Ben oui, mais il faut être éclectique. Il faut s'intéresser à tout, quoi, en fait. Maurice André, c'est très, très bon. Bon, après, Claude François, c'était très bon aussi.
Ça dépend des morceaux, mais c'est d'où ça vient, d'où viennent les chansons. C'est les meilleures chansons sont les moins connues, une des plus anciennes, date du XVe siècle.
Toujours deux personnes qui travaillaient énormément, comme tout ce qui est dans le milieu artistique.
Ah bah oui, il y a des trompettistes de studio, comme Artero, des gens qui jouaient très dur à la trompette et tout, Claude, c'était une montagne. Quoi.
Et Jean-Claude Borély, il joue encore ou je sais...
Je ne sais pas, mais bon, je vois pas trop le truc, là.
Ouais.
On m'aurait dit Georges Jouvin ou Roger Delmotte, j'aurais compris, mais Borély, c'est plus récent.
C'est plus récent, c'est une autre
génération.
Après, bon, je ne me rappelle plus le répertoire qu'il jouait.
Je crois qu'il avait joué un truc qui s'appelait Complainte pour Adeline.
Pour Adeline, c'est...
dans les années 80.
C'est un pianiste.
Non, ça a été fait. Ah oui, c'est Klederman, oui.
C'est Klederman.
C'est le même genre de truc.
C'était un peu la même époque, hein.
Oui, c'était le même genre de musique.
C'était
un petit peu de la variétoche transformée en classique et qui disait pas son nom. Enfin bon, c'était un petit peu prendre les gens pour des Mickey, hein. Moi, en tant que musicien, je me dis pourquoi on se fout du monde comme ça. Il joue bien, Borély, c'est pas le problème.
Oui, c'est un musicien quand même.
C'est une approche.
C'est une autre approche.
De showbiz,
pourquoi pas. Hein,
c'est une approche commerciale.
C'est autre chose.
Dont je raffole pas. Et le mot est faible.
On peut écouter un morceau de. Parce qu'on arrivera à écouter les quatre morceaux. Hein. Concerto brandebourgeois de Bach. C'est ça ?
Le numéro 2.
Le numéro 2,
Le oui. final du numéro 2.
Le final du numéro 2 de Bach. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le livre journal des Beaux-Arts. Donc, thème de l'émission, donc je reçois Olivier Delaveau, thème oui. de l'émission, Maurice André.
Alors, voilà,
c'était Maurice André, donc là on était jusqu'au final.
C'était le final du deuxième concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, une des partitions les plus difficiles à jouer, écrite à l'origine pour la trompette. Hein. Je pense que le Mozart qu'on a entendu tout à l'heure est plus dur à jouer. Au niveau de l'agilité, de la virtuosité. Là, au niveau de la résistance, c'est très dur. Et j'ai la partition, je sais comment ça commence et comment ça finit. Et une fois à Pleyel, pendant les 25 ans qu'il a joué régulièrement à la salle Pleyel, le dernier que j'ai vu, c'est au Palais des Congrès, hein, le dernier de Maurice, c'était son dernier à Paris. À Pleyel, il a donné le Brandebourgeois, une des fois où il l'a donné, c'était au début des années 80, je pense. Et le final, parce que ça finit fa naturel. Il a fini sur le contre-fa. Et finir sur le double contre-fa tout en haut, après avoir joué le Brandebourgeois et un autre concerto avant, dans le monde, c'est jamais sorti.
Ouais.
Attendez. Et vous savez quoi ? Il a sorti le contre-fa. Il a, comme ça. Et vous savez quoi ? Il y avait 3000 personnes assises à Pleyel. Vous savez ce qui s'est passé quand il a sorti le contre-fa ? 3000 personnes se sont levées. Tout d'un coup. Elles ont été élevées avec le contre-fa inattendu. On ne peut pas oublier ça.
Ouais.
Et le Brandebourgeois, ouais. le jouer comme ça après avoir joué un autre morceau avant, il n'y a là, personne derrière. Là, personne.
Chers auditeurs, donc je vous rappelle, donc la galerie Christophe de Buchère sur rendez-vous, donc la galerie Christophe de Buchère, 82 bis Grand Rue à Barbizon, le téléphone 06 33 18 19 10. La pression photographique à l'espace musée Matra, exposition du 14 au 21 avril 2026 de 11h à 18h. Et l'Académie polonaise des sciences, centre scientifique à Paris, 74 rue Lauriston, 10 avril 2026, 18h30, 20h30, entrée libre. Voilà. Donc, cher Olivier, mais c'est une passion de vous recevoir. La passion, vous connaissez tous vos sujets sur le bout des doigts. On voit que vous êtes passionné par tout ce qui est le monde de la culture, donc, qui va de Claude François ou avant, ou voilà, de Maurice André.
C'est une période aussi.
On sent votre passion.
Ce qui m'a intéressé, il est tellement disqualifié, détesté.
C'est la personne qui vous intéresse, qu'elle a fait, sa création. Maurice André aussi.
Et tout le monde.
On fera une émission.
Vous savez, Rostropovitch, c'est important aussi. Enfin,
cette année, on fera une émission, je pense, sur un autre chanteur des années 60-70. Nous arrivons.
Si je peux dire, le véritable pionnier n'est pas celui qu'on croit.
D'accord. On arrive en fin d'émission. Donc, chers auditeurs, je recevais donc Olivier Delaveau, thème de l'émission Maurice André, et je remercie Benoît qui est à la technique, qui sans lui, rien ne se ferait. Merci encore Benoît, merci Olivier, et chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Beaux-Arts créé par Christian Langlois et dirigé par Michel Colombin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 7 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.